VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Abdourahmane Dia et Claire Morin-Gibour avec vous en direct du studio 9 de La Voix de l'Amérique à Washington. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir.
La Cour pénale internationale libère Laurent Gbagbo et Charles Blé-Goudé, mais ils doivent résider dans un pays signataire du traité de Rome.
Les États-Unis imposent des restrictions sur les visas aux Ghanéens. Le Ghana est accusé de ne pas coopérer dans l'expulsion de ses ressortissants.
République démocratique du Congo, la dépouille de l'ancien opposant Étienne Tshisekedi, toujours à Bruxelles 2 ans après sa mort, sera bientôt rapatrié à Kinshasa.
Washington a annoncé son retrait d'un traité sur les armes nucléaires de portée intermédiaire avec la Russie.
Également, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports.
Mais d'abord, le journal. La CPI a décidé de libérer l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, acquitté le 15 janvier sous certaines conditions, dont l'obligation de résider dans un État membre de la CPI. Nathalie Barge.
Les juges ont décidé à l'unanimité de libérer Laurent Gbagbo et Charles Blé-Goudé à condition qu'ils soient accueillis par un État membre de la CPI, disposé à les accepter sur son territoire et désireux et apte à faire respecter les conditions fixées par la Chambre d'appel, a déclaré le président de la Cour pénale internationale, Chilebwe Osuji. La Côte d'Ivoire, membre de la CPI, avait refusé de remettre à la Cour Simone Gbagbo malgré un mandat d'arrêt délivré en ce sens. La Cour pénale internationale pourrait donc refuser le retour de Laurent Gbagbo dans son pays. La défense a précédemment évoqué l'accord conclu avec l'ancien chef de guerre congolais Jean-Pierre Bemba, actuellement en Belgique depuis son acquittement l'an dernier. La Belgique est citée comme possible destination prochaine de Laurent Gbagbo. La Chambre d'appel a chargé le greffier de la CPI, M. Peter Lewis, d'identifier et de conclure des accords avec les États disposés à accepter M. Gbagbo et ou M. Blé-Goudé sur leur territoire et à faire respecter les conditions imposées, a déclaré Chilebwe Osuji.
Nous reviendrons sur la libération de Laurent Gbagbo et Charles Blé-Goudé dans notre partie magazine.
Le Burkina Faso demande aux sociétés minières de prendre des mesures sécuritaires après l'enlèvement et l'assassinat d'un géologue canadien en janvier. Depuis septembre 2017, le secteur minier a enregistré 9 attaques ayant occasionné des décès, des blessés ou des dégâts matériels. L'or est le premier produit d'exportation du Burkina Faso.
L'attaque du groupe djihadiste nigérian Boko Haram contre la ville de Rann en début de semaine a fait au moins 60 morts selon Amnesty International, qui a réalisé une enquête de terrain dans la région. L'attaque la plus sanglante de Boko Haram sur Rann, cette ville dans l'extrême nord-est du Nigeria, a fait au moins 60 morts, a révélé l'Organisation de défense des droits de l'homme, après que plus de 30 000 personnes eurent pris la fuite vers le Cameroun pour échapper au groupe djihadiste qui contrôle désormais la zone.
Les pourparlers de paix de Khartoum au Soudan entre les groupes armés de la Centrafrique et le gouvernement de Bangui ont été suspendus à cause de désaccords. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Il y a eu une suspension des négociations car les parties voulaient se concerter et s'accorder entre elles sur les questions relatives à l'amnistie qui ne devait pas faire partie du cadre des discussions et sur la question du partage du pouvoir. Bangui a toujours refusé une amnistie des chefs de guerre dont certains sont sous sanction onusienne ou cités pour violation des droits de l'homme dans des rapports d'ONG. Débutées le 24 janvier, ces négociations initiées par l'Union africaine cherchent à aboutir à un accord et à la mise en place d'un comité de suivi. Elles ont réuni une délégation amenée par Firmin Grébada, directeur de cabinet du président Faustin Archange Touadéra, et les principaux chefs de groupes armés, dont Ali Dassara, chef de l'UPC, Nouredine Adam du FPRC et Mahamat Al-Khatim du MPC. Ces pourparlers pourraient durer 2 à 3 semaines. Cet accord de paix a déjà été signé depuis le début de la crise fin 2012. Sans qu'aucun arrive à ramener la stabilité.
République démocratique du Congo, 2 ans jour pour jour après sa mort à Bruxelles, la dépouille d'Étienne Tshisekedi sera bientôt transférée à Kinshasa. Son fils, Félix Tshisekedi, devenu président, a assisté ce vendredi à une messe d'action de grâce. Le point avec Thierry Kabundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Étienne Tshisekedi constitue un cadeau exceptionnel de Dieu à la RDC. Des hommes comme lui sont rares, a dit dans son homélie Mgr Gérard Moulumba, le frère de l'ancien président de l'UDPS décédé à Bruxelles le 1er février 2017. L'évêque émérite de Mweka et oncle de l'actuel président de la République croit par ailleurs que Félix Tshisekedi va continuer le combat de son père jusqu'à la victoire finale. Le président de la République, Félix Tshisekedi, sa famille biologique, de nombreux cadres et militants de l'UDPS et quelques personnalités politiques ont pris part à cette messe célébrée à l'occasion du 2e anniversaire du décès d'Étienne Tshisekedi. Selon une communication de la famille du défunt, ce culte marque le début d'une série de manifestations en mémoire de l'ancien leader de l'opposition. Elle devrait se clôturer par son enterrement dans une concession familiale située dans la commune de Lancélé, dans la banlieue de la capitale. La famille qui annonce par ailleurs le rapatriement prochain de la dépouille d'Étienne Tshisekedi, l'une des promesses faites à sa base par le nouveau président de la République. Kinshasa, Thierry Kamundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, accuse les pays occidentaux d'avoir soutenu les émeutes qui ont secoué son pays le mois dernier après sa décision d'augmenter les prix du pétrole. Au moins 12 personnes ont été tuées. Les forces de l'ordre ont procédé à plus d'un millier d'arrestations selon les ONG.
Les États-Unis ont annoncé ce vendredi des restrictions de visa pour le Ghana. Washington reproche à Accra de ne pas coopérer pour permettre le retour de ses ressortissants expulsés des États-Unis. Les explications de John Linden.
Des restrictions relatives aux visas vont s'appliquer à partir du 4 février à certaines catégories de demandeurs. Le communiqué du département américain de la sécurité intérieure est sans équivoque. Les États-Unis cesseront de délivrer tous les visas de non-immigrants aux employés domestiques des diplomates ghanéens en poste, tandis que la période de validité des visas touristes et business sera limitée à 1 mois avec entrée unique pour tous les salariés du gouvernement et du Parlement ghanéen. Washington justifie ces mesures par un fait. Le Ghana n'a pas respecté ses obligations d'accepter le rapatriement de ses ressortissants expulsés des États-Unis en leur fournissant les documents de voyage adéquats. Ces sanctions resteront en vigueur jusqu'à ce que les autorités ghanéennes coopèrent, ajoute le communiqué, précisant que sans une réponse appropriée du Ghana, le champ d'application de ces sanctions pourrait être étendu à une population plus large.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis ont décidé de se retirer du traité de désarmement nucléaire avec la Russie. Washington accuse Moscou de violer ce texte signé lors de la guerre froide. Ce retrait pourrait entraîner une nouvelle course aux armements. Eric Manelekiza.
Le retrait sera effectif dans 6 mois, a dit le président Donald Trump. Toutefois, il a assuré qu'il pourra revoir sa copie si la Russie respecte ses obligations en détruisant tous ses missiles, lanceurs et équipements qui violent le traité. Les autorités russes rejettent des accusations sans fondement et dénoncent en retour des violations américaines, précisant que ce retrait est extrêmement irresponsable vis-à-vis de la sécurité européenne. L'OTAN a appuyé pleinement la démarche américaine, appelant Moscou à revenir dans les 6 prochains mois à un respect total et vérifiable de ses obligations. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a estimé que ces violations étaient une menace pour des millions d'Européens et d'Américains et placé l'armée américaine en position défavorable. Les premières accusations contre Moscou datent de 2014 sous la présidence de Barack Obama. Le risque d'une nouvelle course aux armements n'est pas écarté. Le président russe Vladimir Poutine a récemment promis de développer de nouveaux missiles balistiques de portée intermédiaire en cas de retrait américain. Un haut responsable américain a répondu « S'il y a une course aux armements, c'est la Russie qui l'a lancée ».
Le président américain Donald Trump paraît sérieux dans sa volonté de quitter l'Afghanistan. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui Zabihullah Mujahid, le porte-parole des talibans. Représentants américains et talibans se retrouveront le 25 février pour de nouvelles négociations au Qatar, où les insurgés disposent d'un bureau politique, a fait savoir M. Mujahid. Les États-Unis, pour leur part, n'ont pas avancé de date.
Puis aux États-Unis, le shutdown de l'administration américaine en janvier a fait grimper le taux de chômage, mais n'a pas entamé le dynamisme du marché du travail, où les embauches ont encore été importantes. Le taux de chômage est actuellement de 4% aux États-Unis.
Les gardes-côtes italiens ont bloqué le navire Sea-Watch 3 dans le port de Catane en Sicile pour une série de non-conformités. L'ONG a dénoncé des pressions politiques du gouvernement italien qui, selon ses termes, cherche n'importe quel prétexte pour arrêter les opérations de secours en mer.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco, présentée ce soir par Nani Talani.
L'Ouganda a saisi 3 cargaisons d'écailles de pangolin, des défenses d'ivoire ainsi qu'une corne de rhinocéros d'une valeur estimée à au moins 8 millions de dollars. Les défenses et les écailles étaient dissimulées dans des bûches creusées et emballées dans 3 conteneurs. C'est la plus grande saisie de ce type au monde. L'autorité fiscale ougandaise a indiqué qu'elle provenait de la RD Congo et avait traversé le Soudan du Sud avant d'entrer en Ouganda par la frontière nord. La cargaison se dirigeait vers le Vietnam. 2 Vietnamiens ont été arrêtés en lien avec le transfert de ce trésor animalier. Le gouvernement nigérian va offrir un appui institutionnel à 60 compagnies pétrolières locales. Cette aide consistera à mettre en évidence les synergies et les possibilités de collaboration entre les bénéficiaires ainsi qu'avec d'autres acteurs de l'industrie pétrolière et gazière pour leur permettre d'acquérir de nouvelles capacités et d'entreprendre de grands projets. Selon Ecofin, cette initiative vise à améliorer l'impact des firmes locales dans le développement de l'industrie nigériane de l'énergie. Terminons avec le Conseil mondial de l'or qui a révélé qu'en 2018, l'appétit des banques centrales pour le métal jaune a grimpé à son plus haut niveau en 50 ans, dopant la demande mondiale. Sur l'ensemble de l'année, la demande a progressé de 4%, tirée par celle des banques centrales avec plus de 74%.
Maintenant, la page sport, présentée ce soir par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
La Tunisie face à la Croatie le 11 juin.
Oui, la Fédération tunisienne de football a annoncé qu'elle a trouvé un accord avec la Fédération croate sur la tenue d'un match international amical entre la Tunisie et la Croatie. La rencontre aura lieu le 11 juin sur le terrain des vice-champions du monde. Cette rencontre amicale face aux Croates s'inscrit dans le cadre de la préparation des Aigles de Carthage en prévision de la CAN qui se déroulera en Égypte du 21 juin au 19 juillet.
Un classico en demi-finale de la Coupe du Roi.
Et oui, le Real Madrid sera opposé au quadruple tenant du titre, le FC Barcelone, en demi-finale de la Coupe du Roi. Le match aller de ce nouveau classico se jouera au Camp Nou la semaine prochaine, avant le retour le 27 février à Madrid. Les deux équipes se retrouveront ensuite très vite, début mars, pour un troisième affrontement, cette fois en championnat. L'autre demi-finale opposera le Betis Séville à Valence. Le Barça peut réussir ce qu'aucune équipe n'a jamais accompli s'il remporte la Coupe du Roi pour la 5e fois consécutive.
Bordeaux a mis son veto pour le départ de Sabali.
Oui, le président délégué de Bordeaux, Frédéric Longuepé, a indiqué que son club a mis son veto pour le départ en dernière minute de son latéral sénégalais Youssouf Sabali, sollicité par Fulham en première division anglaise. Je suis très étonné qu'un club se permette de contacter un joueur sans en parler à son club. Il y a des manières et ça, ce n'est pas des manières, a ajouté le dirigeant. Sabali, 25 ans, est arrivé à Bordeaux en 2016 et a disputé 18 matchs cette saison, toutes compétitions confondues. Il est sous contrat avec Bordeaux jusqu'en juin
2021. Ici en NBA, retour gagnant pour LeBron James.
Oui, la superstar des Los Angeles Lakers a fait son retour sur les parquets NBA après 5 semaines d'absence pour conduire son équipe à la victoire 123-120 après prolongation face aux Clippers. King James a contribué à la victoire des siens avec 24 points, 13 rebonds et 9 passes décisives. Les Lakers restent 9e de la conférence Ouest. La franchise californienne a perdu 11 matchs sur 17 disputés sans LeBron James. Fin de série par contre pour Golden State, les Warriors sont tombés devant leur public 113-104 face à Philadelphie du Camerounais Joel Embiid.
Merci à Kuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Abdourahmane Diaye et Claire Morin-Gibourg, toujours avec vous pour la seconde partie du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Place au dossier du jour.
La Cour pénale internationale a ordonné la libération sous condition de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, l'ancien leader des Jeunes Patriotes. Ils ont été acquittés il y a plus de 2 semaines de crimes commis lors des violences post-électorales en 2010 et 2011 en Côte d'Ivoire. Idriss Fall a joint à La Haye l'avocat de Laurent Gbagbo, Emmanuel Altit.
C'est évidemment un très grand jour, car un homme acquitté, reconnu innocent par les juges, un homme reconnu innocent va recouvrer la liberté. C'est tout à fait extraordinaire pour lui qui vient de passer presque 8 ans en détention. Vous vous imaginez les sentiments qu'il pourra avoir quand il passera sa première nuit en dehors du centre de détention. Ça sera extraordinaire.
C'est assorti de conditions, nous dit-on. Quelles conditions ?
La Chambre d'appel va publier dans un avenir très proche le détail de sa décision, de la décision qu'elle a rendue aujourd'hui, dont nous n'avons pour l'instant qu'une sorte de résumé. Donc tous les détails seront publiés et nous pourrons à ce moment-là en parler. Mais pour l'instant, cette décision n'a pas encore été rendue publique.
Rendue publique, apparemment c'est une décision qui doit être écrite alors.
Oui, c'est ça, absolument. Toute la motivation des juges de la chambre d'appel sera exposée et le détail, la teneur de la décision sera dit écrit.
Et on nous dit que en fait, la procureure souhaiterait que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé aillent vers un pays membre de la CPI. Ça veut dire quoi, ça?
La décision des juges, là, je ne peux pas commenter. La décision des juges prévoira l'ensemble des modalités concernant la liberté de Laurent Gbagbo. Et c'est à ce moment-là que nous pourrons en discuter, pas avant.
Est-ce qu'on peut dire que Laurent Gbagbo, on peut s'attendre à ce qu'il sorte de prison aujourd'hui ou demain?
Alors, je vous le disais, il est en voie de, si je puis dire, libération. Il est en voie de recouvrer la liberté. Je ne peux pas vous donner plus de détails pour des raisons que vous pouvez comprendre.
Il se dirigerait vers où? Alors, on parle de la Belgique?
Alors, là aussi, je vous prie de m'excuser, mais là aussi, je ne peux pas commenter pour des raisons encore de sécurité et d'autres raisons.
C'est l'épilogue. Pouvez-vous rapidement nous raconter comment s'est passée cette journée historique?
C'est très intense, très émouvante évidemment sur la fin. La question était celle de la liberté et de la liberté assortie ou pas de modalité, mais ce n'était pas le point principal. Le point principal était de savoir si Laurent Gbagbo allait sortir libre, s'il allait sortir du centre de détention, si le jugement d'acquittement rendu 15 jours auparavant, le 15 janvier dernier, par les juges, allait se matérialiser en une véritable liberté. La réponse a été, en fin de journée, nous avons attendu pendant un certain temps, mais la réponse a été positive et c'est évidemment un grand moment, un moment émouvant.
C'était Maître Emmanuel Altit, joint à La Haye.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24. Au Burkina Faso, un nouveau bilan beaucoup plus lourd du massacre le 1er janvier de Peul dans un village de Yirgou dans le centre nord du pays. Un collectif parle maintenant de 210 morts, 4 fois plus que le chiffre de 49 morts avancé il y a plusieurs semaines par le gouvernement. De Ouagadougou, la correspondance de Lamine Traoré.
Ce 1er janvier, après une attaque armée à Yirgou, une bourgade située dans le centre nord du Burkina, les Peuls ont été ciblés par des villageois Moussi, aidés par des membres de leur groupe d'autodéfense, les Kogluyogo. la plus grave violence intercommunautaire jamais enregistrée au Burkina Faso, selon des spécialistes. Le gouvernement alors avait annoncé 49 morts. Ce chiffre aujourd'hui est contesté par le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés. Le collectif exige que le gouvernement communique la vérité des chiffres, car le chiffre officiel de 49 morts est largement dépassé, selon le collectif.
Le collectif a documenté un nombre de morts plus élevé que les chiffres officiels.
Hassan Bari, président du collectif.
Le nombre de morts à ce jour est de 210 morts. Ce chiffre a été obtenu après un recensement rigoureux, ménage par ménage. Nous précisons que la liste va s'allonger avec le recensement toujours en cours sur le terrain. Le collectif attend du gouvernement qu'il réactualise ces chiffres comme il s'était engagé. Nous avons peur que cette volonté de cacher les morts puisse être préjudiciable aux victimes au moment de leur dédommagement.
Après le drame, le gouvernement avait d'abord parlé de 14 morts. Mais un témoin sur VOA Afrique avait dit avoir compté près de 50 morts. Le lendemain de la diffusion de ce témoignage, le gouvernement avait fini par admettre 49 morts et dit aujourd'hui se contenter de ces chiffres.
Nous travaillons à établir. Ce que je voudrais vous demander, c'est de ne pas vous précipiter sur les chiffres.
Ousseyni Compaoré, ministre de la Sécurité.
Il y a des réseaux sociaux aujourd'hui qui font rage. Chacun y va de ses suppositions, de ses certitudes. Nous enregistrons systématiquement les déclarations et nous établissons. Nous ne sommes pas à ces chiffres. Quand l'enquête aboutira, les chiffres officiels seront communiqués. Il n'y a aucun intérêt à cacher des chiffres. C'est un malheur qui nous est frappé.
Une guerre des chiffres est donc lancée, surtout avec cet écart considérable de plus de 160 morts entre le gouvernement et les collectifs.
L'écart est totalement large et il est grand.
Rémi Lambert-Nébier est journaliste à la télévision BF1.
Ça donne quand même un peu à douter sur peut-être les chiffres officiels qui ont été annoncés par le gouvernement. Bien qu'on soit des journalistes pour s'en tenir aux chiffres officiels, mais on est un peu tenté de les croire.
D'autres, tout en saluant le travail du collectif, pensent qu'il faut prendre ces chiffres avec du recul.
Le travail que le collectif fait également est assez intéressant.
Arjuma Sagnon, lui, est journaliste à la télévision nationale.
Parce que ça va permettre peut-être d'interpeller un peu plus le gouvernement qui ira peut-être pour vérifier les chiffres qui sont avancés.
Reste qu'un mois après ces violences qui ont aussi fait des milliers de déplacés. Aucune arrestation n'a encore été opérée. Les Kogliogo, ces groupes d'autodéfense dont certains ont reconnu leur forfait, règnent d'ailleurs toujours en maître à Yirgou et dans les localités touchées par cette tuerie. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
Le Nigeria doit tenir ce mois-ci une élection présidentielle. Le pays le plus peuplé d'Afrique est aussi premier producteur de pétrole du continent, mais l'écrasante majorité de sa population vit avec moins de 2 dollars par jour. Un récit d'Irénée Herman Lumbo.
Au Nigeria, la corruption a gangréné toutes les époques et tous les gouvernements depuis les années 1960, offrant une société où règne toutes sortes d'inégalités. Nous sommes à Ago et Gumbariga à Lagos, capitale économique du Nigeria. Ici, il n'y a pas de route, pas d'électricité, pas d'eau courante et pas de collecte d'ordures. Maintenant que les hautes herbes bloquent l'accès à la lagune, il n'y a plus de travail non plus. Les habitants d'Ago et Gumbariga vivent de la pêche depuis que leurs familles se sont installées pour la première fois au bord de la lagune il y a plus de 50 ans. Agemo Akako est un habitant de Ago et Gumbariga.
Les défis et l'impact des activités de dragage sont considérables. Avant, quand nous allions pêcher, nous avions de l'argent pour envoyer nos enfants à l'école. Ce qui n'est plus le cas, pire, l'eau potable n'est plus disponible, il faut l'acheter.
Pourtant, l'urbanisation à Lagos évolue à une vitesse vertigineuse. Sa population est passée de 300 000 en 1950 à environ 20 millions de nos jours, à tel point que les arbres ont disparu. Ils ont été remplacés par des bidonvilles de fortune où le combat pour la survie est assez rude. Abioku Kakini vit de la pêche.
Nous luttons pour nourrir nos familles parce que nous n'avons plus d'argent ni d'économie.
Jazola Taiwo est vendeuse de divers dans un marché de Lagos.
Une fois que nous avons dépensé de l'argent pour notre nourriture, payé les frais de scolarité des enfants et de tous les fournisseurs auprès desquels nous achetons des fournitures, il ne reste plus rien à économiser, pas même 500 naira.
Selon le dernier rapport de World Poverty Clock, le géant démographique de l'Afrique compterait 86,5 millions de personnes vivant dans l'extrême pauvreté. Ces chiffres représentent environ 50% de la population nigériane et le placent en tête du triste classement devant l'Inde. Au compte de ces profondes disparités sociales, la mauvaise répartition des richesses, exaspérée notamment par la corruption qui est au centre de la campagne pour la présidentielle du 16 février. Le pays est le premier producteur africain d'or noir et l'un des plus importants au monde avec quelque 2 millions de barils par jour. Les gouvernements militaires ont pillé les ressources de l'État pendant des décennies et depuis 1999, avec l'accès à la démocratie, personne n'a résolu ce problème, regrettent des ONG nationales et internationales qui espèrent compter sur le prochain président pour combattre considérablement ce phénomène.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Les négociations commerciales entre Américains et Chinois se poursuivent à Washington. Le président américain Donald Trump s'est dit optimiste quant à la conclusion d'un accord avec la Chine. Il a laissé entendre qu'il pourrait rencontrer le président Xi Jinping avant la date butoir du 1er mars pour parvenir à ce pacte. Le point avec Michel Joseph.
Une course porcine pour célébrer le nouvel an chinois, l'année du cochon, la semaine prochaine. Mais les éleveurs de porc en Chine font face à des difficultés en ce début d'année. Les taxes américaines sur le soja ont augmenté les prix des aliments pour animaux, obligeant de nombreux éleveurs à réduire leurs pertes en égorgeant leurs troupeaux. C'est l'un des effets de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine que les négociateurs des deux côtés tentent de régler à Washington. Le président Donald Trump se dit optimiste.
Si ça se produit, ça sera de loin le plus gros accord commercial. Ça sera aussi le plus gros accord jamais conclu.
Le président Trump a reçu hier jeudi Liu He, vice-premier ministre chinois et négociateur en chef, pour discuter des complaintes de Washington qui accusent Beijing de limiter l'accès au marché chinois et d'obliger les entreprises américaines à transférer des technologies à des entreprises chinoises. Lundi, les procureurs américains ont inculpé Meng Wanzhou, directrice du géant chinois des télécommunications Huawei Technology, accusée de violation des sanctions contre l'Iran et de vol de secrets commerciaux à T-Mobile. Le ministre américain de la Justice par intérim, Matthew Whitaker, s'explique.
Pour construire leurs robots, les ingénieurs de Huawei ont violé les accords de confidentialité avec T-Mobile en prenant secrètement des photos de ce robot, en le mesurant et même en dérobant un morceau de celui-ci.
Beijing a demandé aux États-Unis de mettre fin à ce qu'il appelle une suppression déraisonnable de l'ostracisme envers les compagnies chinoises. La Maison-Blanche répond que l'acte d'accusation n'est pas du tout lié au pourparlers. Sarah Sanders, attachée de presse à la Maison-Blanche.
Il s'agit d'un processus totalement séparé. Les négociations sur le front commercial vont se poursuivre.
Le président Trump a déjà rencontré son homologue chinois, Xi Jinping, en décembre lors du sommet du G20 en Argentine. Il a tweeté à propos d'une autre réunion avec Xi Jinping, qu'il appelle son ami dans un avenir proche.
L'accord final sera conclu. Ça sera entre moi et le président Xi Jinping.
David Barker, de l'université américaine ici même à Washington, estime que M. Trump s'appuie sur ses relations personnelles pour conclure des accords et le met en garde contre le danger potentiel.
Négocier les échanges commerciaux avec la Chine, c'est différent de négocier le prix d'un bien immobilier. Par conséquent, lorsque vous ne faites pas vos devoirs, en particulier lorsque vous avez cette dynamique interculturelle, les choses peuvent aller de travers.
Si aucun accord n'est trouvé avant le 1er mars, les États-Unis menacent d'augmenter les droits de douane de 10% à 25% sur les produits chinois d'une valeur estimée à plus de 200 milliards de dollars.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique, à la mise en onde Firmin Max Koyaveda, à la console Sidrak Franklin, au micro Claire Morin-Jubour et Abdourahmane Dia.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h sur 24, un seul site internet, voaafrique.com, sans oublier notre page Facebook, bien sûr. Restez avec nous tout de suite, le RM Show présenté par Roger Muntou. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Tout de suite.